The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré. C'était donc bien articulé.
Oui, vraiment.
Québécois et canadien.
Je suis Hélène, en compagnie de...
Ah, et je suis Mélanie. Voilà.
Alors, on est là pour vous raconter des histoires horribles, comme d'habitude.
Hélène, elle vient de couper quelque chose au montage parce qu'elle dit vraiment de la merde.
J'ai comme voulu dire de quoi, puis j'ai
C'était
comme
vraiment pas pertinent, fait oublié. Qu'on l'a coupé, puis là, on trouve ça drôle, fait que là, vous comprenez pas. Hey, grosse affaire.
Au pire, je le
gros, gros vendredi après-midi.
Ouais.
Écoute... Je suis sur la caféine. oui. Hey, j'ai un life hack. Tu bois-tu du café glacé, toi?
Pas tant.
J'ai un life hack que j'ai trouvé sur TikTok.
C'est quoi?
Moi qui bois souvent des cafés glacés, puis le matin, on se fait des... Tu sais, on boit des silex de café, là. On boit pas des silex de café, mon chum, là.
J'entends pendant que vous en buvez du café.
On utilise une machine à café normale, là, genre filtre. On s'est cherché.
Oui, OK.
Puis il en reste tout le temps du café, tu sais, on le boit pas tout le temps. Mm-hmm. Fait que tu fais couler ce café-là dans un rack de glaçons, puis tu les mets dans ton congélateur. Fait que quand tu te fais un café glacé, au lieu de mettre de la glace, puis que ton café sera comme de l'eau après, mm-hmm. ben tu mets tes glaces en café.
C'est du génie.
C'est hot, hein?
C'est très hot.
Puis depuis que je fais ça, crème, le café, il goûte jamais l'eau. Parce que tu te ramasses tout le temps avec fond de glace dégueulasse.
Ah.
C'est un café à Saint-Lambert qui fait ça, puis tu charges une pièce de la glace de café. je trouvais ça brillant. Et je l'ai vu sur TikTok aussi, bref. Life hack.
Ah.
Vous me direz si ça vous intéresse.
J'aime ça, des cafés glacés, mais ça me tente jamais de m'en faire. Fait que genre, si quelqu'un me fait un café glacé, je suis vraiment heureuse.
Mais c'est parce que toi, t'as une machine nice.
Ouais, j'ai une machine espresso. Oui.
C'est ça. Nous autres, on utilise du café filtre. Mon chum, le plus dégueulasse de café, il mieux, il aime ça. Puis moi, je bois du café depuis 15 minutes. Fait que. Bref. Aujourd'hui, intro un peu stupide à un update
très
assez important.
Oui, parce que en fait, là, on sort un épisode alors qu'on n'est pas supposé. Ça fait juste une semaine que l'autre est sorti parce que on voulait vraiment faire une mise à jour importante.
Oui, la mise à jour, vous avez été, je pense, des centaines de milliers à nous écrire. Non, il y a vraiment beaucoup de gens qui nous ont envoyé. Et on avait vu aussi la résolution du meurtre irrésolu jusqu'à ce jour de la petite Sharon Pryor.
Mm-hmm.
Donc, c'était moi qui l'avais raconté. Et fun fact, l'épisode, c'est moi qui l'ai raconté, l'histoire du meurtre de Sharon Pryor. On l'a sorti le 23 mai 2022. Et la résolution du meurtre, moi, quand je l'ai raconté, c'était encore irrésolu.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, le meurtre a été résolu. Ça a été annoncé le 23 mai 2023.
Exactement un an après qu'on ait sorti l'épisode.
C'est fou, hein? Il y a quelqu'un qui nous a écrit à ce sujet-là.
Il y a plusieurs personnes qui l'ont remarqué. Je pense au moins deux personnes nous l'ont fait remarquer.
C'est drôle, là.
C'est vraiment un drôle de hasard. Là.
C'est vraiment un drôle de hasard. On le voit là, sur les articles de journaux, c'est écrit 23 mai, 23 mai, puis je suis comme crime. Nous autres, l'épisode 41, c'était 23 mai 2022.
Ouais.
C'est capoté. Et là, c'est ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode...
Faites
OK, là,
pause.
C'est quand même un spoiler parce que le meurtre est résolu, ouais. Mais c'est ça, faites pause puis allez l'écouter parce que ça vaut vraiment la peine d'écouter cet épisode-là de un. Et de deux, je vais quand même parler de faits que j'ai mentionnés dans l'épisode de l'année passée. Donc, un petit résumé là, pour ceux qui s'en rappellent pas tout à fait. C'était le samedi 29 mars 1975. Sharon Pryor, 16 ans, elle a été enlevée, violée et tuée dans les rues de Pointe-Saint-Charles à Montréal, dans West Island un peu. Non, pas West Island.
Pointe-Saint-Charles, oui.
En tout cas, bref. Le meurtre, ça n'avait jamais été résolu jusqu'au 23 mai dernier. Ça a repris 48 ans, 120 suspects, 45 enquêteurs, puis une grande évolution de la science pour résoudre cette affaire.
Ouh.
Et là, il y a un documentaire qui s'appelle « Ne repose pas en paix » qui a été sur Crave. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ben là, on est le 2 juin, je sais pas, l'épisode sort lundi. Je pense qu'il est sur Nouveau aussi.
Okay.
Mais je ne suis pas certaine, à vérifier. Donc, ce documentaire-là, c'est la journaliste Marie-Christine Bergeron et l'enquêteur Éric Rasico, qui est le sergent détective au service de police de Longueuil, qui ont résolu l'affaire du meurtre de Sharon Pryor. Donc, eux, c'est, ils racontent. Et pour ceux qui se demandent là, pourquoi Longueuil, parce que le corps de la petite a été retrouvé à Longueuil. Vraiment pas loin de chez nous, on se rappelle. Donc, c'est ça. J'ai regardé le documentaire d'à peu près 45 minutes et je fais comme un petit résumé avec quelques faits intéressants que j'ai trouvés aussi grâce à mes recherches sur la généalogie génétique. Alors,
vas-y,
voilà. Yvonne Pryor, la maman, et les deux sœurs de Sharon, Doreen et Maureen, ont toujours été très impliquées dans le dossier, toujours dans l'espoir de trouver qui a commis les gestes horribles auprès de leur sœur et de sa fille. À chaque fois qu'Yvonne entendait le nom d'un nouveau suspect, elle cherchait dans le vieux bottin téléphonique pour trouver son adresse, puis aller voir à quoi il ressemblait. Puis dans le documentaire, on voit qu'elle a gardé le bottin téléphonique, c'est les pages jaunes.
De l'année 1960.
Oui, 75. Puis
hein.
Elle rayait, tu vois, elle rayait les noms des suspects. Il y en a eu plus de 120 des suspects.
Oh my God.
C'est quand même capoté. Fait qu'elles savent. Ils n'ont jamais lâché l'affaire.
Ben non.
Ils n'ont jamais lâché. Ils fou. Ont bien fait.
Ouais.
Là, un matin, Yvonne tombe sur un article qui mentionne le cas de Christine Jessop. Christine Jessop, c'est une Ontarienne de 9 ans qui a été aussi, malheureusement, enlevée, violée et assassinée en octobre 84. Quelques mois après cette tragédie-là, la police a arrêté et accusé un homme du nom de Guy-Paul Morin, qui a été condamné pour meurtre au premier degré le 30 juillet 1992. Le meurtre de Christine Jessop. Je suis encore sur le cas de la petite Christine. Par contre, Guy-Paul Morin, c'était pas le meurtrier de la petite Christine. En octobre 2020, donc 36 ans plus tard, le gars, ça fait 36 ans qu'il est en prison, la police a identifié Calvin Hoover, un ami de la famille Jessop, comme étant le vrai meurtrier de Christine. Comment c'est possible, OK? L'ADN de Calvin a été relié à la scène du crime de Christine grâce à la généalogie génétique. En 2015, il s'est suicidé et il y a un échantillon de son sang qui a été archivé au laboratoire du Center of Forensic Sciences à Toronto. Et c'est ça qui a permis au détective d'établir une correspondance concluante entre son ADN et l'ADN qui avait été trouvé sur la scène de crime de Christine. Parce qu'on se rappelle que en 1975, comme on l'a mentionné dans plusieurs autres épisodes, les tests d'ADN, ça n'existait juste pas.
Non, c'est ça.
Donc, Yvonne Pryor, la maman de Sharon, voyant cette histoire passer en 2020, donc ça fait 3 ans, elle appelle Éric Rasico, qui est sur le cas de Sharon, parce qu'elle est persuadée que la généalogie génétique qui a permis d'identifier le tueur de la petite Christine pourrait aussi peut-être aider à résoudre le cas de sa fille Sharon. Là, j'ai été obligée de googler, OK? Parce que généalogie génétique...
Ça te disait pas grand-chose.
Ben, un petit peu, mais tu sais. Donc là, généalogie, OK, c'est la recherche de l'origine et l'étude de la composition des familles. Et la génétique, c'est la science des lois de l'hérédité. Donc, ensemble, la généalogie génétique, c'est l'utilisation de la génétique, donc de l'ADN, pour retrouver l'origine slash la famille d'une personne. Donc, comment ça fonctionne? Je vais vraiment virer folle. Là. J'ai fait vraiment des recherches. Okay. Je vais aller un petit peu loin, mais vous allez... Okay, suivez-moi, vous allez tout comprendre. Okay, comment ça fonctionne, la généalogie génétique? On prend des millions de mesures d'ADN d'une personne, puis on va dans la banque de données publiques pour trouver des correspondances. C'est comme ça qu'on peut aller cibler la famille directe d'un individu. Ça nous prend donc des échantillons d'ADN, et vraiment beaucoup, pour établir ces relations-là. Donc, c'est ça que ça nous prend pour le meurtrier de Sharon. Heureusement, les policiers ont soigneusement conservé les pièces à conviction de la scène du crime de Sharon Pryor.
Une chance.
Oui. Après analyse, on découvre que l'ADN du meurtrier est à 3 endroits différents. soit sur les pantalons de Sharon, sur sa petite culotte et sur la chemise d'homme qui a aussi été retrouvée sur la scène du crime. Mm-hmm. Je raconte dans l'histoire, là, mais elle a été attachée, ses mains ont été attachées avec une chemise.
Mm-hmm.
Voilà. Dans le documentaire, Eric Racicot mentionne qu'un détail vraiment important dans l'enquête, c'est le fait que Sharon portait encore ses souliers quand elle a été découverte décédée.
Okay.
Ça veut dire que l'agresseur, il a vraiment eu de la difficulté à enlever ses pantalons à la petite parce qu'il fallait qu'il passe par-dessus les souliers.
Ouais.
Donc, il a vraiment gossé beaucoup avec les pantalons. Fait qu'il y a beaucoup d'ADN sur les pantalons.
Mmh.
Fait que c'est une mine d'or pour les biologistes qui peuvent avoir vraiment beaucoup d'échantillons d'ADN. Aussi, ce qu'il faut savoir sur l'ADN, c'est que quand on l'utilise une fois pour un test, on ne peut pas le réutiliser.
Ouais.
Fait que c'est pour ça que ça prend vraiment beaucoup d'échantillons. Donc, les pantalons.
Des fois, c'est comme, c'est leur, mettons, dernière chance. Ils sont comme, OK, on l'essaye, mais tu sais, si on chie notre coup,
c'est fini. T'as pas le choix. Donc, c'est pour ça que le pantalon, c'était vraiment une mine d'or pour les biologistes qui procédaient aux échantillons d'ADN. On procède donc à l'extraction des échantillons d'ADN sur le pantalon, sur la petite culotte et sur la chemise, puis on l'envoie à Montréal au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Là, grâce au témoignage de Cheryl Roy, okay, qui avait été la première femme qui avait été agressée par le tueur de Sharon ce soir-là du 29 mars 1975, grâce à elle, on sait que l'agresseur, c'est un homme. Là, on se rappelle toujours que les tests d'ADN n'existaient pas en 1975. Donc, les policiers, à l'époque, s'étaient fiés à la description de l'agresseur faite par Cheryl. Là, il faudra aller écouter l'autre épisode, là, si jamais vous ne l'avez pas écouté. En fait, le tueur de Sharon, ce soir-là, il avait essayé d'agresser une autre femme en premier, mais il y avait des gens qui l'avaient aperçu dans la rue. Fait qu'il a laissé aller Cheryl, puis après ça, en partant à courir, il est tombé sur Sharon.
Ouais, genre quelques minutes après.
Ah ouais, c'est ridicule, c'est des secondes, là. Cheryl, dans le documentaire, ils ont la description qui a été faite ce soir-là de Cheryl, de son agresseur. Mm-hmm. Puis j'ai fait pause, puis je l'ai transcrite parce qu'il le montre à l'écran. C'est écrit, elle décrit comme suit. Un homme de race blanche, mesurant environ 6 pieds 2, pesant environ 200 livres, âgé de 25 à 30 ans. Il parlait anglais, avait les cheveux châtains, yeux bleus. Teint médium, était vêtu de jeans bleus et un jacket de ski bleu royal. Il avait une moustache. Maintenant que le cas est résolu, okay, je l'ai vu la photo du tueur, cette description-là est sacoche.
Ah ouais.
Genre, c'est exactement ça. Elle l'a vraiment bien vu. C'est exactement ça. Donc, tout ça pour dire que à cause de tout ça, on savait que l'agresseur, c'était un homme. Okay? Donc là, je retourne dans mon petit cours d'ADN. Là, suivez-moi. Okay. Les hommes, ils ont le chromosome Y. Les femmes, ils ont le chromosome X. Puisque le chromosome Y est uniquement transmis du père à son fils, l'étude génétique du chromosome Y a permis de suivre la lignée masculine directe d'une famille, donc la lignée patrilinéaire. Ouais. Les chromosomes sexuels qui déterminent le sexe d'une personne, c'est XX pour une femme et XY pour un homme. J'espère que c'est clair?
Ouais.
OK. Les femmes qui sont porteuses de deux chromosomes X transmettent à leur fille et à leur fils un chromosome X.
Ouais.
Et les filles ne pouvant pas se retrouver avec un chromosome Y, ils ont donc deux chromosomes X, puis les garçons ont un X et un Y qui leur viennent de leur papa. Parce que papa ne peut pas transmettre le Y à sa fille.
Ouais, il va transmettre un X. Ouais.
C'est-tu clair? OK.
Oui.
Donc, le fameux, pourquoi je raconte ça, c'est que le fameux chromosome Y, il change jamais. Okay? Il est exactement le même chez le garçon, chez son père, chez son grand-père, chez son arrière-grand-père. Toute la lignée, il reste exactement pareil. Okay? Fait que c'est vraiment facile à retracer. Si l'agresseur avait été une femme, ça aurait été une toute autre histoire. Parce que ça, c'est quasiment impossible à retracer. Tandis que là, vu que c'est un homme, ça facilite vraiment les choses côté ADN. Fin du cours d'ADN. Fait que là, les biologistes, ils procèdent au test de généalogie génétique avec l'ADN qui a été recueilli sur la scène du crime de Sharon, puis ils réussissent à retracer la famille de l'agresseur. On a donc son nom de famille, mais pas son prénom. Le fameux nom de famille, c'est Romine. Son nom de famille, OK? C'est normal que vous avez probablement jamais entendu quelqu'un qui s'appelle comme ça, parce que apparemment dans le documentaire, Eric Rasco l'explique vraiment bien. Il dit que c'est un nom vraiment rare, puis vraiment inutilisé. Ce qui fait qu'au début, ça a été difficile à retrouver, mais en même temps, dès qu'ils l'ont retrouvé, il y en avait juste une famille.
Ouais, fait que ouais.
C'était assez facile.
C'est pas comme si ça avait été Tremblay.
Et c'est ça.
Là, il y aurait plusieurs familles à regarder.
Exact. Là, on trouve la famille Romine. Et, surprise, c'est une famille américaine. Donc, le tueur n'est pas québécois. Il est américain. C'est une famille américaine de 8 enfants. Donc là, parmi les 8 enfants... Les 8 enfants? 8 enfants.
8 enfants.
Et les liaisons, les 8
enfants. Hein, je sais pas.
Parmi les 8 enfants, il y en a 4 qui sont des hommes. Dans ces 4-là, il y en a 2 qui sont décédés, 2 qui sont encore en vie. Il y en a un qui habite en Floride, puis l'autre en Virginie-Occidentale, West Virginia. Je savais pas que West Virginia, en français, c'était Virginie-Occidentale.
Moi non plus.
Et voilà, on en apprend. Donc, pour déterminer qui est le tueur parmi les 4 hommes, parce que qu'ils soient décédés ou vivants, ça peut être lui, les enquêteurs doivent recueillir l'ADN des 2 frères qui sont encore en vie. Donc, la police de Longueuil contacte rien de moins que le FBI.
Nice.
Qui, eux, font appel à la collaboration de la police de la Floride et de la Virginie-Occidentale. Là, tout le monde collabore. Les 2 frères Romine décident de collaborer aussi. Prise d'échantillons, voilà. Donc, après avoir reçu les échantillons, le laboratoire a fait des analyses puis il compare avec l'ADN qui a été trouvé sur la scène du crime. Bonne nouvelle, l'ADN correspond, mais pas à 100%. On a donc la bonne famille, mais c'est pas un de ces deux-là.
Ouais.
Donc là, on sait que c'est un des hommes qui est décédé. Donc, puisque la police a le nom de famille du tueur, là, ils peuvent effectuer des recherches dans leur base de données puis ils trouvent le dossier des deux frères décédés. Et il y en a un qui est assez épais, son dossier. Okay? Il contient 13 condamnations criminelles aux États-Unis puis au Québec.
Oh.
Donc, il avait quand même l'habitude de venir souvent au Québec.
Okay.
Il y a une grande carrière criminelle, ce gars-là qui a commencé à l'âge de 11 ans. Un des deux frères. Okay? On pense donc avoir le coupable rendu là.
Ouais.
Mais il faut quand même le prouver. Prochaine étape. Demander l'exhumation du corps, donc le déterrer pour aller chercher les échantillons d'ADN. Donc, le 2 mai 2023, ça fait un mois pile aujourd'hui, on procède à l'exhumation du corps dans le comté de Putnam, qui est en Virginie-Occidentale. Sur le site, il est extrêmement important que le corps soit pas endommagé parce qu'il a été enterré en 1982. Donc, il est majoritairement décomposé puis il reste juste des os. Et pour procéder à une analyse génétique concluante, les biologistes y ont besoin de 5 ossements bien spécifiques. Donc, finalement, ça a été un peu compliqué. Là, dans le documentaire, on voit une grosse pelle qui creuse. Il y a plein de monde. Il y a des journalistes. En tout cas, c'est vraiment spécial. Ils réussissent finalement à prendre les échantillons d'ADN nécessaires et ils les envoient au laboratoire de Montréal. Le 17 mai dernier, 2023, les biologistes ont un profil complet avec l'ADN recueilli qui compare avec celui du tueur. C'est un match parfait. Le meurtrier de Sharon Pryor est officiellement un homme nommé Franklin Maywood Romine. Romine, il était en liberté conditionnelle depuis 1973 aux États-Unis, puis il faisait face à des nouvelles accusations d'effraction et de viol. Fait qu'il s'était enfui à Montréal, c'est une ville qu'il avait quand même l'habitude de visiter. Il était donc en fuite quand il a agressé et tué la jeune Sharon. 7 mois plus tard, il a été extradé vers les États-Unis, mais il est revenu à Montréal en 1982 où il est décédé à l'âge de 36 ans dans un hôpital à Verdun. Sa famille a décidé de l'enterrer en Virginie-Occidentale. Aujourd'hui, on sait qu'il a fait au moins 4 autres victimes de viol, puis la police pense malheureusement en trouver plusieurs autres maintenant qu'il a été identifié. Aussi, bon, au final, sur une note un petit peu plus positive, la maman de Sharon, Yvonne Pryor, à la fin du documentaire, il demande, il annonce qui est officiellement le meurtre de sa fille.
Ouais.
Puis elle dit qu'elle est vraiment heureuse que ce soit pas quelqu'un du coin. Puis elle dit qu'elle est heureuse qu'il soit décédé, non pas par vengeance pour sa fille, mais pour qu'il puisse pas faire de mal à personne.
Mm.
J'ai vraiment trouvé ça cute qu'elle dit ça. T'sais, c'est même pas par vengeance qu'elle veut. C'est-à-dire, au moins, il fera pas mal à personne.
Mais c'est ça, parce qu'il est décédé quand même tôt. T'sais, il est décédé en 82.
Oui, ouais, il avait 36 ans.
Ouais, c'est une bonne affaire.
Ouais,
c'est, parce qu'il en aurait fait d'autres victimes, c'est sûr.
Oui, mais oui. Puis là, maintenant qu'il a été identifié, j'espère qu'ils vont pouvoir...
Ouais, le relier à d'autres,
ouais,
d'autres
c'est
cas.
T'sais, qu'il y a d'autres cas qui vont pouvoir avoir une... Closure?
Une
conclusion?
Oui, une conclusion.
Fermeture? Oui, en tout cas. Donc, c'est ça le petit update sur notre famille Pryor. C'est vraiment touchant. Je vous invite à aller voir le documentaire sur Crave. C'est vraiment touchant.
Oui, il faut que je l'écoute. Oui, je ne l'ai pas encore écouté. J'étais juste surprise de la vitesse à laquelle ils ont fait le documentaire.
Ah, c'est fou, hein?
Ouais.
Je ne sais pas, il est sorti quelle date, mais, mais tu voyais que. T'sais, ça faisait longtemps qu'ils filmaient. Là. Fait qu'ils savaient que ça s'en venait.
C'est ça, ils savaient que ça s'en venait. Ouais.
Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, ils ont fait on l'a. C'est sûr qu'ils ont appelé leur équipe de production puis ils ont fait tu médites ça toute la nuit s'il faut, mais on le sort demain. Genre.
Ouais.
Mais oui, mais en tout cas, c'est vraiment bien documenté puis c'est super bien expliqué. Il y a juste la petite recherche d'ADN que moi j'ai faite, que j'ai ajoutée parce que je trouvais ça vraiment intéressant de savoir comment ça fonctionne. Mais aussi, ils parlent de profilage. Je me rappelle plus comment, là, mais il y a un laboratoire aux États-Unis qui fait avec des échantillons d'ADN, ils peuvent faire un profil génétique robot, un portrait robot.
Ouais, c'est ça. Ils peuvent, mettons, c'est quand même fou. À partir de l'ADN, ils peuvent dire, OK, c'était un homme blanc qui vient probablement de telle région.
Puis ils disaient, ils sont pas capables de dire, mettons, ils peuvent pas... Comment ça fonctionne? Quand ils reçoivent l'ADN, ils peuvent pas dire, ah, oh, c'est un homme aux yeux bleus, mettons. Ça va dire, ce n'est, il a pas les yeux bruns. Il n'y a pas les yeux verts, il n'y a pas les yeux pairs. Fait que c'est par élimination.
Okay.
Ça dit tout qu'est-ce qui n'est pas.
Mm.
Fait que là, tu fais, OK, qu'est-ce qui reste? C'est comme, je pense, ceux-là, ça disait, il n'est pas roux, il n'est pas blond. C'est comme ça que ça marche. Parce que c'est vraiment fou. Là, on peut aller loin dans les recherches. Mais... Fait que voilà, le petit update de Sharon Pryor.
Il y a une éditrice qui nous a envoyé un article cette semaine qui disait qu'il voulait faire la même chose dans le cas de Valérie Leblanc. D'essayer
ah
de...
oui, c'est vrai.
Ouais. D'essayer de résoudre, vu qu'ils ont de l'ADN.
Ben oui,
ils vont essayer de faire la même chose.
À suivre.
Ce serait fou.
On espère vraiment vous revenir avec un deck là-dessus aussi.
Ouais. Oh, et peut-être sur plein d'autres cas, là. Tu sais, s'ils commencent à faire ça, là, c'est fou, là. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont résolu quelques gros cas grâce à ça dans les dernières années, là.
Aïe.
C'est fou.
Ah, c'est capoté. Mm. On espère pouvoir vous faire plus d'updates comme ça.
Oui.
Ça reste une histoire vraiment triste, mais au moins la famille, ça fait 50 ans là, qu'ils sont comme. On peut-tu avoir une conclusion, s'il vous plaît?
Oui. Ah, c'est tellement une chance.
Ah, l'enfer. Donc, voilà, un petit épisode bonus pour vous, tout le monde.
Mais oui.
Parce qu'on vous aime et que c'est un cas vraiment important. Puis c'est une avancée vraiment importante aussi.
Mm-hmm. Vraiment.
Donc, voilà.
Voilà, fait que on se retrouve dans une semaine pour la prochaine histoire.
Oh, c'est mon histoire la prochaine?
Non, c'est la mienne.
Ouh.
Qu'on a déjà enregistrée en fait.
On l'a déjà enregistrée. OK, on vous aime. Bonne semaine. Bonne journée.
À la semaine prochaine. Bye.
Bye.